Vivante Église. Vivante Église. Vivante Église, le magazine régional de la vie chrétienne. Une émission proposée par Emmanuel Pella.
La liturgie, la messe, pour les grands priants, voire même les mystiques, il y a là des réalités qui éblouissent par leur profondeur. Mais pour les catholiques pratiquants lambda, il y a là des réalités énigmatiques dont il pressent la profondeur, mais face auxquelles il a tour à tour l'impression d'être analphabète ou comme un éléphant dans un magasin de porcelaine. Alors pour nous aider, nous avons fait appel à un initié, si je puis dire, pour mieux comprendre cette porte sur la vie de l'âme qu'est la liturgie. Frère Jean-Fabrice, bonjour.
Bonjour Emmanuel.
Vous êtes donc prieur du couvent des Carmes à Toulouse, prêtre, donc religieux carme et supérieur de cette communauté. On vous a entendu à cette antenne il n'y a pas si longtemps que cela, puisqu'on a eu le bonheur d'être accueilli par votre communauté pour le Triduum Pascal. On vous retrouve donc ce matin pour cette émission donc sur le thème liturgie et vie spirituelle à l'intérieur d'une grande série annuelle, donc en partenariat avec l'Institut Jean de la Croix, qui est un institut au cœur de l'Institut catholique de Toulouse pour, comment vous présenteriez, introduction ou approfondissement de la vie spirituelle, c'est ça ou...
Et déjà un approfondissement, oui, des études sur la vie spirituelle. On propose donc un certificat de spiritualité qui contribue à donner des grades académiques aussi, oui.
Voilà, pour plonger dans les trésors de la tradition. Alors aujourd'hui, donc, le thème liturgie et vie spirituelle, ça peut paraître étonnant à certains peut-être de faire d'apposer ces deux mots tant ils semblent se ressembler, ou au contraire, pour certains, tant ils semblent se différencier entre prier, on va dire, tout seul, chercher Dieu seul ou participer à une vie communautaire. On va voir là, ça, tout ça au long de cette émission. Je voulais commencer par une expression. La liturgie, on dit que c'est l'exercice du culte public de l'Église. Ma question serait, quand on entend culte public de l'Église, pour beaucoup de contemporains et peut-être même pour un certain nombre de pratiquants, on peut y voir quelque chose là de très extérieur. Que faut-il entendre par cette expression, exercice du culte public de l'Église?
Oui, effectivement, l'expression désigne un peu de l'extérieur ce qu'est la liturgie. Lorsque quelqu'un rentre dans une église et voit qu'on est en train de célébrer l'Eucharistie ou un sacrement, ça peut être un mariage par exemple, on voit qu'il y a quelque chose d'officiel de par la mise en scène, entre guillemets, de la chose. Vous avez un prêtre en chasuble... les gens qui font des gestes un peu prédéterminés, il y a quelque chose donc d'officiel, en effet, mais ça ne nous fait pas encore entrer dans le mystère même de ce qu'est l'exercice de la liturgie. Cette expression ne nous dit pas le cœur de la liturgie. On voit, ça désigne bien la partie extérieure, mais pas plus.
À propos de la messe, on a coutume de dire ou de se dire entre pratiquants que quand quelqu'un se pose des questions sur Dieu ou sur la vie chrétienne, il faut pas commencer par l'emmener à une liturgie eucharistique parce que justement il risque d'y participer comme qu'à un spectacle. Est-ce qu'il y a là quelque chose un petit peu de normal que de prime abord quand on n'est pas initié d'avoir du mal à rentrer dedans, ou est-ce que vous trouvez que c'est une réserve exagérée?
Alors oui, la question est assez difficile en réalité, parce que on voit notamment chez les pères de l'Église, ces auteurs les plus anciens dans l'Église, qui pour la plupart d'entre eux étaient évêques et donc avaient un souci pastoral, on voit une double préoccupation. D'abord pour les non-baptisés qui viennent vraiment de l'extérieur, qui ne connaissent rien à la vie chrétienne, ils disent c'est pas la peine de les emmener à la messe parce qu'ils ne pourront pas comprendre ce qui se passe avec un regard de foi qui permet d'aller au-delà de l'écorce extérieure, c'est-à-dire de la ritualité simple, pour saisir ce qui est vraiment en jeu, c'est-à-dire l'entrée dans le mystère du Christ. Et inversement, dès lors que quelqu'un est baptisé, et à l'époque, dans l'Antiquité chrétienne, on est baptisé à l'âge adulte la plupart du temps. On a quelques enfants baptisés, mais la plupart du temps, ce sont des gens qui se convertissent et qui sont baptisés à l'âge adulte. Dès qu'ils sont baptisés, sans plus de catéchèse, on va les plonger de suite dans la célébration de l'Eucharistie, en se disant que, puisque maintenant ils ont adhéré au Christ, qu'ils ont en eux la foi, même si elle ne sait pas encore bien s'exprimer à travers des mots, eh bien, on peut les mettre au contact de ce mystère du Christ dans la célébration de l'Eucharistie, et la compréhension leur viendra naturellement. Alors peut-être que, ben, pour bien répondre à la question, il faudrait dire qu'il y a un peu des deux, qu'il faut quand même être aussi guidé par pas à pas, tenu par la main, pour entrer dans la célébration du mystère de l'Eucharistie.
Voilà, en tout cas, moi je peux vous dire, vous l'avez pas vu parce que vous étiez tout devant, forcément lors du Triduum Pascal et de la Veillée Pascale, mais puisqu'on a eu le bonheur d'assister à la Veillée Pascale chez vous, il y avait au fond de l'église une famille avec des enfants, et au début, les enfants avaient l'air vraiment d'assister à un spectacle, voire même ils gloussaient, j'ai l'impression qu'ils ont failli ressortir, et puis petit à petit, on sent qu'ils ont été pris dans la liturgie, et ils ont, à la faveur de la lecture des textes ou de l'homélie, voilà, c'était très frappant de voir ça, c'est peut-être déjà un élément de réponse. Dans le cours que moi j'ai fait suivre, un petit peu plus loin, il est dit la chose suivante: on a trop souvent coutume d'appeler symbolique une réalité dévaluée. Et vous laissez donc entendre qu'il y a donc dans la liturgie, qu'on entend par liturgie évidemment dans cette émission la messe, mais aussi l'ensemble des offices de la vie de l'Église. Donc il y a une dimension symbolique, et puis vous ajoutez: mais en réalité c'est tout le contraire, une réalité est symbolique lorsqu'elle porte plus de sens que son aspect extérieur ne le laisse deviner. Est-ce que quelque part c'est pas un peu normal qu'il y ait une part de mystère et que on comprenne pas tout, que ça soit un peu sec, la liturgie?
Forcément. Ce sera, on restera toujours légèrement à l'extérieur, et on peut d'ailleurs participer à la célébration de l'Eucharistie chaque dimanche. Évidemment, il y a des choses qui changent un peu, notamment la lecture de la parole de Dieu change tous les dimanches, c'est clair. Mais simplement, la reprise de la prière eucharistique, qui est prise dans un choix très limité, nous pouvons tout à coup être frappé par une phrase, une expression, un mot qui vont nous atteindre au cœur et nous faire mieux pénétrer dans le mystère du Christ. Donc, il n'y a pas de répétitivité au sens d'une reproduction littérale de chaque événement lorsqu'on célèbre la liturgie, mais au contraire, une pénétration de plus en plus intense, de plus en plus intime dans le mystère qui est célébré et qui va nous faire découvrir des merveilles à chaque célébration.
Donc ça veut dire qu'il ne faut pas d'abord chercher quelque part l'émotion, mais à ce que le sens qu'on peut y trouver soit de plus en plus creusé, c'est ça, vous
entendez ? Tout à fait, oui, oui.
Vous voyez, ça c'est un exemple de question fermée, on appelle ça dans le journaliste. Hein. Vous pouvez me dire que oui ou que non, c'est exactement ce qu'il faut pas faire. Un peu plus loin, vous nous expliquez que la liturgie, et particulièrement la messe, mais pas que, c'est le lieu en fait d'exercice de la fonction sacerdotale du Christ. Alors ça peut paraître un mot bien compliqué pour certains, vous ajoutez pour détailler deux choses. Dans la liturgie, c'est la récapitulation particulièrement dans la messe, c'est la récapitulation de tous les sacrifices de l'ancienne alliance, et c'est un lieu un peu de jonction entre le temps et l'éternité. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ces deux phrases?
Alors tout d'abord, je voudrais rappeler que cette définition de la liturgie comme exercice de la fonction sacerdotale du Christ a été proposée par le pape Pie XII. Dans son encyclique Mediator Dei, qui date de 1947, ça commence à remonter déjà, c'est la première encyclique entièrement consacrée à la liturgie. Bien sûr, des papes avaient abordé le thème de la liturgie, mais pour des points très particuliers. Là, il s'agit de porter vraiment un regard d'ensemble sur la liturgie, et c'est pourquoi il propose cette définition de la liturgie comme exercice de la fonction sacerdotale du Christ. Évidemment, ça sera repris par le Concile Vatican II dans sa constitution sur la liturgie, Sacrosanctum Concilium. Alors, pour en revenir à la suite de votre question...
Donc là, je vous disais, en fait, il y a deux expressions que j'ai relevées. C'est la récapitulation de tous les sacrifices de l'ancienne alliance. Et un petit peu plus loin, il s'agit d'un rapport entre le temps et l'éternité, laissant entendre que c'est un lieu de jonction de ces deux réalités.
Tout à fait. Donc, le Christ exerce d'abord une fonction sacerdotale qui existait déjà dans l'Ancien Testament.
Alors sacerdotal, on peut repréciser ce que ça veut dire ? C'est quoi ?
Donc c'est la fonction de prêtre.
Mais prêtre, c'est...
Exactement, celui qui accomplit les sacrifices dans l'Ancienne Alliance, c'est de ça, cela qu'il s'agit. Le prêtre est chargé d'offrir à Dieu des sacrifices. Ceci pour présenter les prières des hommes à Dieu et... Inversement, il est celui qui fait venir les bénédictions de Dieu, les grâces de Dieu, sur le peuple. Donc c'est une fonction qui est à double sens. Et cela est général, toute fonction sacerdotale comporte ce double aspect. Et cela se fait dans l'Ancien Testament par l'offrande de sacrifices. Le livre du Lévitique, notamment, dans le Pentateuque, explicite un certain nombre de sacrifices. Vous avez les holocaustes où la victime est entièrement brûlée, donc offerte à Dieu. Vous avez les sacrifices de communion, des sacrifices d'action de grâce, des sacrifices pour le pardon des péchés. Et la lettre aux Hébreux, donc l'un des écrits du Nouveau Testament, qui va reprendre le mystère pascal du Christ, sa mort en croix et sa résurrection, il reprend cette thématique des sacrifices pour expliquer ce qui s'est passé sur la croix. Il faut bien comprendre que au tout début du christianisme, on a affaire à quelqu'un dont on affirme qu'il est Dieu et qui pourtant a connu un échec complet dans sa mission, puisque celle-ci s'est soldée par une condamnation à mort et une exécution horrible. Comment comprendre cela ? C'est vraiment un scandale. Saint Paul dira lui-même, d'ailleurs, dans la première lettre aux Corinthiens, que c'est un scandale pour le peuple juif d'avoir quelqu'un dont nous prétendons qu'il est Dieu et qui pourtant a été crucifié. Et la lettre aux Hébreux va expliquer que, en réalité, ce qui était au départ une condamnation injuste est accompli par le Christ lui-même comme un sacrifice, une offrande qu'il fait de sa propre vie à Dieu le Père, à travers cette condamnation à mort donc, et cette offrande de lui-même récapitule tous les sacrifices de l'Ancienne Alliance.
Alors après, sur la deuxième partie, comme vous dites, il s'agit d'un rapport entre le temps et l'éternité. La liturgie, c'est par excellence, dans toute la vie des hommes, en fait, le lieu de jonction entre le monde, on va dire, visible et invisible, entre le temps et l'éternité. Comment comprendre cette expression ?
Oui, alors, en effet, il nous faut revenir encore au mystère pascal, qui est donc la mort du Christ en croix comme événement historique réalisé dans le cours de l'histoire, et en même temps, puisqu'il s'agit d'une offrande, comme je viens de le dire, le Christ s'offre à Dieu son Père et passe donc par sa résurrection dans l'éternité de Dieu. De sorte que la liturgie qui nous fait rentrer dans ce mystère pascal nous fait entrer à la fois dans l'événement historique du mystère pascal, c'est-à-dire dans la mort, dans la mise en croix du Christ et sa mort sur la croix, et aussi, inséparablement, nous fait entrer dans sa résurrection, c'est-à-dire entrer dans la vie de Dieu. Et lorsque nous célébrons la liturgie, j'aime à dire que nous avons à la fois un pied dans le temps présent et déjà un pied dans l'éternité.
Vous vouliez aussi, pour finir, avant qu'on fasse une première pause, rappeler ce qu'est le mémorial, ce que recouvre en fait cette expression, le mémorial. On pense particulièrement aussi, en l'occurrence à la liturgie eucharistique, dans mémorial, et c'est tout le mystère de la liturgie, et puis la difficulté hein, pour les chrétiens qui y participent, qu'ils soient très croyants ou surtout pour ceux qui le sont peut-être un petit peu moins, on se pressent qu'il y a quelque chose qui nous concerne, qui est présent, et en même temps on a l'impression d'assister à un moment où on fait surtout mémoire d'un événement passé. Alors comment comprendre cela et que recouvre l'expression mémorial ?
Le mémorial, c'est donc bien plus qu'un simple souvenir. On se souvient d'un événement passé, comme par exemple, là, dans quelques jours, nous allons célébrer le 8 mai, c'est donc la capitulation et la fin de la partie occidentale de la Deuxième Guerre mondiale. C'est un événement heureux, donc il est bon que nous nous en souvenions pour ne pas retomber dans les mêmes horreurs de cette Deuxième Guerre mondiale. C'est très bien. Il n'empêche que c'est un événement du passé. Ça s'est produit en 1945 et nous espérons profondément que ça ne se reproduira jamais. Lorsque nous parlons de mémorial dans l'Eucharistie, il s'agit du mémorial de cet événement pascal qui, du coup, devient contemporain, qui s'actualise aujourd'hui lorsque l'on est en train de célébrer l'Eucharistie. Cet événement de Pâques n'est plus un simple événement qui a eu lieu il y a environ 2000 ans dans un endroit précis, mais c'est un événement qui se produit ici et maintenant. Le Concile de Trente au XVIe siècle disait « c'est bien cela même qui se produit, mais de manière non sanglante, nous n'avons plus le fait même de la croix et tout cela, mais nous entrons quand même dans cette offrande qui s'est accomplie alors et qui s'accomplit réellement aujourd'hui, chaque fois que nous célébrons l'Eucharistie. C'est donc quelque chose de très très fort qui s'accomplit.
Ouais, et ça demande évidemment un regard de foi. On va faire une première pause musicale et puis on va vous retrouver pour continuer à creuser cette émission donc sur le thème liturgie et vie spirituelle.
Présence.
Vivante Église, Emmanuel Pella.
Liturgie et vie spirituelle, c'est le thème de l'émission Vivante Église de ce matin, émission donc de notre grande série annuelle avec l'Institut Jean de la Croix, donc lieu de formation, d'approfondissement de la vie spirituelle proposée donc au cœur de l'Institut catholique de Toulouse, Jean de la Croix étant, pour ceux qui ne sauraient pas, donc un carme. Et quel carme ? Et nous sommes avec justement le frère Jean Fabrice qui est prêtre religieux carme et prieur du couvent de Toulouse. Dans cette deuxième partie, je voulais qu'on commence par évoquer une réalité qu'on a pu pressentir dans le début de cette émission et qui est souvent rappelée comme fondamentale dans la vie de l'Église, c'est que dans le fond, toute la vie de l'Église est quelque part, en tout cas c'est la foi des chrétiens, toute la vie du monde tourne non pas en orbite autour de nos préoccupations d'abord et de notre vie, mais autour de la liturgie. Ça peut être difficile à comprendre, c'est peut-être plus facile à entrevoir quand on va passer du temps dans un couvent comme le vôtre. Expliquez-nous cette réalité, qu'est-ce que ça veut dire ?
D'abord, notre vie orbite autour de la personne même du Christ. Mais le Christ est le premier liturge lui-même, c'est-à-dire le premier à célébrer la liturgie, puisque lui-même est toujours dans cet acte dans lequel il se reçoit de son Père et il s'offre à son Père. C'est-à-dire, il est le premier à célébrer la liturgie. Et cela, nous le saisissons mieux dans notre vie religieuse parce que nous avons une pratique quotidienne de la liturgie, de l'Eucharistie, bien sûr, et puis aussi de la liturgie des heures qui est le chant de l'épouse, qui est associé à son époux, le Christ. L'Église épouse est associée à la prière du Christ époux dans cette louange adressée à Dieu le Père. Et cela, lorsque nous le vivons au quotidien, en effet, nous sommes amenés à mieux pénétrer ce mystère de la liturgie comme essentiel de la vie de l'Église, ou pour reprendre l'expression du Concile Vatican II, source et sommet de la vie de l'Église.
Est-ce que entre l'homme que vous étiez avant de rentrer dans la vie religieuse et d'avoir donc une vie conventuelle et l'homme que vous êtes aujourd'hui, vous diriez que évidemment la vie conventuelle vous a fait comprendre ou pénétrer en profondeur le fait que votre vie et toutes nos vies dans quelque part sont appelées à être décentrées?
Tout à fait. Je crois qu'avant j'avais un regard sans doute plus extérieur sur la réalité de la liturgie comme quelque chose qu'il fallait faire, comme quelque chose qui me nourrissait aussi, bien entendu. Peut-être même, c'est difficile maintenant, parce que je commence à être avoir un peu de bouteille dans la vie religieuse, ça fait plus de 30 ans que je suis rentré au Carmel, peut-être aussi le pressentiment que il y avait un mystère que j'effleurais. Mais depuis, eh bien, je pénètre de plus en plus, mais j'apprends encore, bien sûr, à pénétrer dans ce mystère de la vie de la liturgie, oui.
Donc il faut rappeler qu'au Carmel, c'est la liturgie de la messe quotidienne, et après, vous avez combien de temps de liturgie, on va dire, communautaire ?
Alors, nous célébrons la liturgie des heures 5 fois par jour.
Voilà, donc ça fait quand même bien, quoi, 2-3 heures par jour, si c'est pas plus.
Moins que cela, non. Deux heures par jour, auxquelles nous ajoutons nos deux heures d'oraison, qui permettent de faire retentir aussi, d'ailleurs, la liturgie, dans notre vie intérieure.
Vous avez une autre expression, vous dites que vous l'avez effleuré, enfin, vous l'avez dit, mais peut-être un petit peu rapidement, quand vous avez dit que c'est nous qui orbitions autour du Christ dans notre vie, la liturgie appartient au Christ. Est-ce que vous pouvez expliquer ça? Vous l'avez dit tout à l'heure, en fait, quand vous expliquez que la fonction sacerdotale du Christ, enfin, cette grande offrande que le Christ a fait à son Père sur la croix, elle continue mystérieusement à se vivre dans le monde. Quand on dit la liturgie appartient au Christ, qu'est-ce que ça veut dire ?
Oui, c'est lui qui est effectivement le premier à célébrer la liturgie, c'est-à-dire à célébrer le culte de Dieu le Père, et cela, il le fait éternellement dans la Trinité Sainte. Le Christ, Verbe de Dieu, à la fois Dieu et homme, ne cesse de présenter au Père son offrande, l'offrande qu'il fait de lui-même, dont nous voyons une image à travers le mystère pascal comme événement historique, mais cette image est l'image d'une réalité qui se produit éternellement à l'intérieur même de Dieu. Dans l'éternité de Dieu, le Christ continue toujours de s'offrir à son Père, comme le dit la lettre aux Hébreux. Et ainsi, il est celui qui, par excellence, célèbre la véritable liturgie.
Et ce qui veut dire que quand on participe soi-même à la liturgie, ou quand on lit la liturgie des heures, on entre en fait dans la prière même du Christ, c'est-à-dire que c'est pas seulement nous qui essayons de rejoindre Dieu ?
Oui, nous entrons dans la prière du Christ parce que le Christ n'a pas voulu être seul à célébrer cette authentique liturgie de son Père. C'est lui-même qui associe son épouse, l'Église, à sa louange adressée au Père. Et donc, l'Église, comme épouse du Christ, va être le deuxième acteur de la liturgie. C'est-à-dire, je parle bien de l'Église comme corps du Christ, ou épouse du Christ, comme une personne qui célèbre la liturgie. Et moi, membre de l'Église, de par mon baptême, je deviens apte à célébrer à mon tour la liturgie de l'Église. De sorte que ma prière liturgique n'est pas simplement ma prière personnelle qui s'adresse à Dieu, qui est une chose qui est très bien en soi, il n'est pas question de dénigrer une prière spontanée qui monterait de mon cœur et s'élèverait vers Dieu, c'est une très belle chose cela, mais la prière liturgique c'est autre chose, c'est donner voix à l'Église pour qu'elle puisse effectivement adresser sa louange à Dieu le Père dans le Christ.
Alors toujours dans cet exercice, dans cette deuxième partie d'émission, pour essayer de voir où est le, on va dire qui a l'initiative. Est-ce que vous pouvez creuser en préparant l'émission, vous me disiez que la liturgie, en fait, c'est pas Dieu qui vient, c'est pas l'homme qui vient vers Dieu, mais dans le fond, c'est plutôt Dieu qui vient vers l'homme. Expliquez-nous ça.
Oui. Donc je parlais à l'instant d'une prière spontanée qui monterait à mes lèvres. Parce que j'ai envie de rendre grâce à Dieu pour les merveilles qu'il a accomplies dans ma vie, ça, c'est des choses qui peuvent arriver, ou bien ça peut être une supplication parce que je vois telle personne qui est dans le besoin, ou que je suis moi-même dans le besoin, et je vais me mettre à supplier le Seigneur d'exaucer ma prière, ou encore je me sens pauvre et pécheur, et je vais demander à Dieu de me pardonner. Tout cela, ce sont des prières que je vais adresser dans des situations particulières à Dieu, mais qui viennent de moi. Bon, aidé par l'Esprit Saint souvent, hein. C'est lui qui va faire monter sur mes lèvres cette prière. Très bien. Dans la liturgie, c'est un peu autre chose. Puisque le Christ est le premier acteur de la liturgie, il fait participer d'abord l'Église à son action de grâce, et donc dans l'Église, il me fait participer à cette action de grâce qu'il fait monter vers le Père, de sorte que ce ne sont pas mes propres paroles que je vais faire monter vers Dieu, mais celles que je reçois de l'Église. Et voilà pourquoi c'est l'Église qui dirige la liturgie. C'est lorsque on célèbre par exemple un office liturgique, une heure de la liturgie, et l'Église me dit, bien, on va employer tel et tel psaume, telle et telle prière, pour exprimer cette prière. Et je vais avoir à dire, chanter ce psaume, dire cette prière, etc. Maintenant, ça ne veut pas dire que cette prière va rester extérieure à moi-même. Il m'appartient, moi, d'entrer dans cette prière. Ce qu'avait déjà fort bien vu Saint Benoît, dès le 5e siècle, lorsqu'il dit à ses moines,
Saint
lorsque
Benoît,
vous chantez,
fondateur de l'ordre bénédictin.
De l'ordre bénédictin, tout à fait, à Subiaco. Et donc il dit à ses moines dans sa règle, lorsque vous chantez l'office, que vous chantez les psaumes dans l'office, il faut que votre voix s'accorde, que votre pensée s'accorde à votre voix. Spontanément, d'ailleurs j'ai fait le lapsus, on dirait le contraire. C'est-à-dire, j'ai une pensée de louange, de supplication, etc. Et je vais exprimer cette pensée par ma voix en disant une prière de louange, de supplication, etc. à Dieu. Et là, saint Benoît nous demande de faire le contraire. C'est-à-dire que notre pensée s'accorde avec ce que l'Église nous fait dire par notre voix.
Est-ce qu'il n'y a pas là, en fait, je me permets de m'y arrêter, vraiment une grande clé aussi dans la vie spirituelle, parce que quand on va, par exemple, puisqu'on était récemment chez vous, donc pour le Tridium Pascal, eh ben on monte une grande volée de marche pour accéder à votre grande chapelle, à votre église, on a l'impression en fait qu'on a l'initiative, et en même temps, peut-être dans la vie spirituelle, petit à petit, en fait, on découvre que certes, Dieu nous laisse avoir l'initiative, mais que dans le fond, c'est toujours lui en fait qui vient en premier. Comment vous expliqueriez ça, cette bascule souvent importante dans la vie spirituelle?
C'est tout à fait essentiel à la vie spirituelle. S'apercevoir, en quelque sorte expérimentalement, ce que dit saint Jean dans sa première lettre, ce n'est pas nous qui avons aimé Dieu, c'est lui qui nous a aimé le premier. Et la vie spirituelle va consister toujours en un décentrement de soi-même, où je passe de moi voulant m'adresser à Dieu par ma prière à accepter que Dieu vienne en moi et me fasse advenir vers lui, me fasse monter vers lui. Encore que l'expression de monter ne soit pas tout à fait adéquate. Pour être plus exact, il faudrait dire que Dieu me fait descendre vers lui. La vie spirituelle consiste bien plus souvent à descendre qu'à monter.
Pour finir cette deuxième partie, j'aimerais que vous nous parliez de, puisque c'est le thème de l'émission, liturgie et vie spirituelle, ce qu'on comprend, c'est que la liturgie, c'est le lieu par excellence d'introduction à la vie spirituelle. Alors vous avez une expression, c'est le lieu d'intériorisation de la vie du Christ. Vous avez dans le cours, donc vous m'avez suivi un moment, vous dites la chose suivante, ce n'est pas d'abord un réservoir de bonnes pensées, la liturgie, même s'il faut pas évidemment dénigrer ceux qui prennent comme tel. Qu'est-ce que vous voulez dire par intériorisation de la vie du Christ? Là aussi, c'est comme ce qu'on disait au début, ça se voit pas forcément de prime abord dans la messe, voire même dans la liturgie des heures, que dans le fond on contemple quelqu'un et on essaye de petit à petit d'essayer de lui ressembler.
Oui, vous avez même employé une expression, vous avez parlé d'une introduction à la vie du Christ, c'est déjà l'exercice même de ce qui fait la vie du Christ, la liturgie. Ça n'est pas un préalable, c'est déjà l'exercice de cette vie, et la pratique de la liturgie va nous faire comprendre que, en effet, peu à peu, nous entrons de plus en plus profondément dans cette vie du Christ qui essentiellement est abaissement, don de soi-même, perte de soi-même pour rentrer dans la vie même du Christ, dans un don de soi à Dieu. En définitive, le Christ n'a fait que cela tout au long de sa vie sur terre, et parce que c'est cela qu'il accomplit au sein de la Trinité, il se donne à son Père, il se donne de plus en plus jusqu'à l'extrême. Saint Jean, au début du chapitre 13 de son évangile, dit que Jésus, ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, les aima jusqu'au bout, jusqu'à l'extrême. Et toute la vie du Christ, c'est ce mouvement vers l'extrême du don de soi-même. Et dans la liturgie, c'est ce que nous faisons déjà, alors de manière symbolique encore, pour reprendre cette expression que nous avons introduite au début de l'émission. Et de manière symbolique, ça ne veut pas dire de manière allégée, ça veut dire de manière profondément réelle, mais très intérieure.
Est-ce que ça peut pas être une manière aussi d'aider ceux qui écoutent cette émission de participer on va dire de mieux participer en fait à la vie liturgique que de se dire d'abord qu'il faut chercher en fait quelqu'un, il faut chercher un visage, il faut entendre une manière de se comporter, de réagir prêt petit à petit, bref, d'essayer de voir, j'allais dire, l'hologramme qui se dessine ou qui se précise en fait à l'intérieur de ce qui peut paraître très symbolique, comme on disait. Comment vous expliqueriez ça? Est-ce que c'est aussi comme ça que quand on est carme, qu'on participe à la vie liturgique, en fait, on cherche quelqu'un, on cherche à l'entendre, à lui ressembler?
Oui, de prime abord, il semblerait que la participation à la liturgie, ce soit tout simplement chanter ce qui est proposé de chanter, accomplir les gestes qui nous sont demandés au cours de la liturgie, s'asseoir, se lever, se mettre à genoux, embrasser son voisin pour le baiser de paix, etc. Mais en fait, chacun de ces gestes, chacune de ces attitudes, chacun de ces chants ont un sens et nous font entrer de fait dans la vie du Christ. Donc, on ne peut pas se contenter d'une simple participation extérieure à ce qui serait purement rituel, mais à travers ces rites mêmes, nous allons entrer dans une vie qui est la vie du Christ. Et lorsque la liturgie est bien célébrée, cette introduction dans la vie même du Christ s'accomplit de manière toute naturelle, quelque sorte.
On va faire une deuxième pause et puis on va vous retrouver pour finir cette émission et parler de la tradition. Là aussi, on peut avoir une manière, comme le terme mémorial, une manière malheureuse de comprendre ce terme, la liturgie comme premier lieu, premier dépôt de la tradition vivante.
J'ai la tête dans les étoiles, je rêve de plages, de dunes, en m'éloignant trop du rivage. Je suis au septième ciel, j'ai pas envie de redescendre sur terre. Je me sens pousser des ailes, je vous invite à voyager pas cher. Sur mon petit nuage, je tisse ma toile, au fil des heures, sur d'autres paysages, je hisse les voiles. Je perds le fil de ma pensée, j'en ai l'esprit tout décousu. Bien trop souvent, j'ai oublié, même si parfois c'était voulu. Sur mon petit nuage, je tisse ma toile, au fil des heures, sur d'autres paysages, je hisse les voiles. Ma toile, au fil des heures, sur d'autres paysages, je hisse les voiles. Parfois je croirais vivre sur une autre planète, là-bas, près des étoiles, complètement à l'ouest. La tête dans les nuages, j'ai pas les pieds sur terre. En bas, il court à perdre haleine, comme un seul homme, comme des moutons. Quand on l'aide-t-on pour filer la laine? Moi je cours pas, j'ai les jambes en coton. Sur mon petit nuage, je tisse ma toile, au fil des heures, sur d'autres paysages, je hisse les voiles. J'ai la tête dans les étoiles, je rêve de plages, de dunes, en m'éloignant trop du rivage. Sur mon petit nuage, je tisse ma toile, au fil des heures, sur d'autres paysages, je hisse les voiles. Sur mon petit nuage, je tisse ma toile, au fil des heures, sur d'autres paysages, je hisse les voiles. Sur mon petit nuage.
Radio Présence à Gourdon, 104.8. Vivante Église, Emmanuel Pella.
Liturgie et vie spirituelle, c'est le thème de l'émission Vivante Église de ce matin, donc émission de notre grande série annuelle, en partenariat avec l'Institut Jean de la Croix, le premier lundi de chaque mois, où on creuse presque alternativement une des grandes, richesses de la vie spirituelle et on alterne avec la figure d'un saint. On est ce matin donc avec le frère Jean Fabrice, qui est prêtre, religieux carme et donc prieur du couvent de Toulouse. Dans cette dernière partie, comme promis, je voulais qu'on parle un petit peu de la tradition. Pour ça, vous allez nous raconter une histoire qui est celle de Don Guéranger. Alors, Don Guéranger, certains vont se demander qui c'est, d'autres le connaissent peut-être. Le réformateur de l'ordre bénédictin en France, c'est
réformateur,
ça
plutôt refondateur après la Révolution. Oui.
Alors, expliquez-nous pourquoi il est bon de citer cet homme à propos de la tradition et de la liturgie.
Oui, c'est parce que il a été le premier à l'époque moderne à penser, à revenir à cette idée traditionnelle de fait que la liturgie est par excellence lieu de vie spirituelle. Auparavant, on avait tellement en tête l'idée de culte public officiel de l'Église que la liturgie semblait être plutôt une annexe du droit canonique. Ça fait partie des choses qui sont à faire, un exercice ascétique à accomplir, et rien de plus.
Vous dire que c'était comme ça que c'était vu dans l'Église à l'époque?
Bien souvent, oui. Ah, et oui, ce n'est pas le lieu d'expression de la vie spirituelle ou de lieu de nourriture de la vie spirituelle.
Donc Don Guéranger, on rappelle, c'est 1805-1875.
Voilà. Et donc, dans les années 1840, il fonde l'abbaye de Solesmes, qui va être centré sur la vie liturgique, de fait, comme déjà source et sommet de la vie chrétienne.
Alors Solesmes, quand on y va, c'est vrai que c'est impressionnant. Hein. On sent bien qu'on est, au cœur de la tradition millénaire de l'Église. Hein. C'est aussi la grande vertu de l'ordre bénédictin. Cet ordre qui date des premiers siècles de la vie de l'Église. Qu'est-ce que vous diriez à propos de la tradition? En fait, comment est-ce qu'il faut bien entendre la tradition, comme ce que vous nous avez dit un peu plus tôt dans l'émission, mémoriale? C'est vrai, tradition, on peut le prendre rapidement comme quelque chose aussi de mort, plutôt qu'un grand fleuve qui traverse l'histoire.
Tout à fait. D'ailleurs, dans l'Évangile même, le Seigneur fustige la tradition qui vient des hommes, comme il le dit. Hein, vous avez abandonné la loi de Dieu pour suivre la tradition qui vient des hommes. Donc on peut entendre ce mot en très mauvaise part et vouloir l'opposer à ce qui serait la seule et unique véritable révélation, c'est-à-dire l'Écriture sainte. Or, c'est mortifère de vouloir opposer tradition et écriture, que ce soit pour privilégier l'écriture ou que ce soit pour privilégier la tradition, en quelque sorte, contre l'écriture. En réalité, ce n'est pas que les deux soient comme deux voies parallèles qui nous apporteraient la révélation de Dieu, mais la tradition authentique interprète l'écriture pour aujourd'hui. Et pour tout dire, la tradition authentique, c'est en fait la vie de l'esprit, l'action de l'esprit aujourd'hui dans l'Église, qui nous fait comprendre la Sainte Écriture pour aujourd'hui.
Voilà, c'est-à-dire que la tradition, ça n'est pas que le passé.
Ah non.
La tradition est vivante et chacun, en fait, lisant les Écritures, essayant de les comprendre, etc., participe d'une certaine manière à la tradition. En tout cas, c'est ce que j'avais compris.
Dans la manière où il est lui-même perméable à l'action de l'esprit. C'est la raison pour laquelle cette action de l'esprit a laissé des traces dans l'histoire. Et c'est pourquoi on peut parler de différents canaux de la tradition. Avec le cardinal Congar, on peut discerner quatre canaux de la tradition qui sont donc, pour le premier d'entre eux, c'est la liturgie elle-même, mais il y a aussi les pères de l'Église, c'est-à-dire ces premiers écrivains chrétiens, premiers millénaires en gros, qui nous ont laissé donc de nombreux écrits qui sont pour nous une parole de Dieu. Mais aussi, il y a les grands théologiens et docteurs de l'Église, et puis les saints. Les saints sont parole de Dieu pour nous, parce que mieux que tout autre, ils ont su vivre de l'Évangile à une époque donnée, en répondant aux défis de cette époque précisément. Comme par exemple un saint Vincent de Paul, voyant la pauvreté, la misère à son époque, a voulu réagir en fondant les filles de la charité, mais répondre aussi à des besoins spirituels en fondant des séminaires et la congrégation de la mission pour cela.
Alors pour finir cette émission, j'aimerais justement qu'on parle des plus pauvres, puisque dans votre cours, vous dites un moment allez, je vais forcer un petit peu le trait et puis vous corrigerez, que dans le fond, la liturgie a quelque chose de supérieur au service des plus pauvres. C'est pas forcément comme ça qu'on verrait d'abord la vie chrétienne, hein, avec un pape qui nous exhorte constamment à ne pas seulement être des chrétiens de salon, mais à nous relever les manches et à les servir et aimer, y compris très loin de l'Église. Comment faut-il comprendre cet accent que vous précisez?
Alors, pour en revenir à la pensée même du Saint-Père, je voudrais évoquer son exhortation à la sainteté qu'il a publiée il y a à peu près un an.
Gaudete et exultate.
Voilà. Où il dit, il ne faut pas opposer la vie de prière, la vie spirituelle et le service des pauvres. Si l'Église s'enfermer dans sa vie de prière sans se mettre au service des pauvres, elle serait stérile et sa vie de prière elle-même ne serait pas authentique. Et à l'inverse, si l'Église ne se préoccupait que des pauvres et sans plus s'intéresser à sa relation vivante avec Dieu par la vie de prière, elle deviendrait une simple ONG parmi les autres, et sans doute pas la meilleure du reste. Et donc ce serait complètement horizontal, il n'y aurait plus rien. En réalité, l'Église a besoin des deux. Simplement, je cherche à développer l'expression donc qu'emploie le Concile lorsque, à plusieurs reprises, il affirme que la liturgie est source et sommet de la vie de l'Église. Il ne s'agit pas de dire qu'elle serait supérieure au service des plus pauvres, mais qu'elle est antérieure au service des plus pauvres, comme source de ce service qu'elle va rendre aux pauvres. Et je trouve cette formulation extrêmement suggestive, parce que c'est dans l'exercice même de la vie liturgique que l'Église va trouver la force, l'amour, pour se mettre au service des plus pauvres de façon gratuite, d'une manière qui soit vraiment un accomplissement de cette vie de prière.
Alors il y a de fait une réalité que j'ai découvert à la faveur de la préparation de cette émission. Avant, à l'intérieur même de la liturgie, le pain qui était apporté donc à l'autel pour être consacré et devenir donc le corps et le sang du Christ, c'est en tout cas la foi des catholiques, une partie de ce pain après a été gardée et destinée aux plus pauvres. Racontez-nous cette tradition dans l'Église qui n'existe plus aujourd'hui.
Oui, dans les premiers siècles chrétiens, lorsque se développe considérablement la liturgie dans les basiliques, ce sont les gens eux-mêmes qui vont apporter du pain et du vin en grande quantité. Chacun apporte selon ce que sont ses moyens, et on apporte des dons en nature pour la célébration de la liturgie. Nous en trouvons une trace lorsque les fidèles à la messe dominicale apportent la coupe et la patène contenant le vin et le pain qui vont servir à la célébration de la liturgie. Mais c'est un geste qui est assez réduit, puisqu'on n'apporte que ce qui servira pour la consécration ensuite. Alors que là, on apportait en grande quantité, on prélevait une petite partie de ce pain et de ce vin pour la célébration elle-même de la liturgie, donc de la messe, et tout le reste était destiné à nourrir les pauvres. Je trouve cela extrêmement suggestif que le même pain, le même vin vont servir pour la messe et pour le service des pauvres.
Frère Jean-Fabrice, pour finir, une question, on va dire, de conclusion, du même acabit que mes questions d'introduction. Pour tous ceux qui auraient écouté cette émission, qui l'auraient pris en cours de route, et qui se désolent un petit peu en vous écoutant de ne pas arriver à comprendre d'eux-mêmes la grandeur et la beauté des mystères auxquels ils participent, qu'est-ce que vous leur conseilleriez, hormis peut-être suivre la formation de l'Institut Jean de la Croix ?
Ce qui est une bonne formation, en effet, c'est très bien. Je leur conseille...
Comment petit à petit voir davantage au-delà des symboles, justement ?
Il faut regarder ce qui se passe, écouter aussi les paroles qu'on entend, auxquelles peut-être on s'est trop habitué. On sait que après telle parole vient telle parole, et on laisse un peu ronronner comme un bruit de fond tout en pensant plus ou moins à autre chose pendant ce temps-là. La participation active à la liturgie suppose que on écoute vraiment les prières, souvent très très belles, qui sont dites dans la célébration de la liturgie, et qu'on les laisse retentir en soi. Il y a pour cela des temps de silence. Une bonne liturgie bien célébrée est une liturgie qui va être rythmée, avec des moments plus forts et puis des moments de silence ou de chant, ou voilà, dans lesquels on pourra participer autrement. Donc on va profiter des temps de silence pour laisser retentir en soi les paroles que l'on a entendues et en saisir vraiment le sens, la portée profonde, et ça va nous aider à entrer dans ce mystère qui est célébré, qui est le mystère même du Christ. Nous allons pouvoir revivre à travers les chants, les paroles, les attitudes, les gestes. Nous allons pouvoir donc revivre ce mystère même du Christ et y entrer dans toute sa beauté, dans toute sa grandeur, dans toute sa profondeur. Nous allons découvrir toutes les dimensions du mystère pascal du Christ et, en y participant, le revivre même pour soi-même, c'est-à-dire parvenir à ce don de soi qui, à la suite de la liturgie, lorsqu'on nous aura dit « Allez dans la paix du Christ », nous fera ressortir avec un cœur renouvelé et donc vivre à travers les gestes du quotidien ce que l'on a vécu d'une façon ramassée, symbolique, dans la liturgie, et donc accomplir ce don de soi-même. Si, sortant de la liturgie, on s'attrape avec le voisin parce que lorsqu'on sort, on manœuvre les voitures pour retourner chez soi, on a du mal à se céder la priorité. On sait qu'on a mal vécu la liturgie elle-même. Si on cède la place à son voisin juste en sortant de la messe, déjà c'est qu'on a commencé à intérioriser ce qui s'est passé dans la liturgie.
Voilà, c'est la même chose, hein. C'est si on met son casque en remontant sur son vélo, c'est ça ?
Oui.
Merci beaucoup, frère Jean-Fabrice, d'être venu ce matin donc pour cette émission sur la liturgie et la vie spirituelle. Un grand merci à vous. Cette émission a été réalisée par Rémi Souloumiac. Vous pouvez la réécouter ce soir à 21h ou la retrouver en podcast sur notre site internet ou notre page Facebook. Quant à moi, je vous donne rendez-vous demain.
Cette émission est disponible sur CD. Commandez-la en téléphonant au 05 62 48 63 00 05 62 48 63 00 ou par mail à contact@radioprésence.com.